Alors aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Vous l'avez probablement entendu peut-être aux nouvelles, peut-être sur votre calendrier, peut-être que vous avez une bonne mémoire aussi. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, la fête des pères, vous le savez, hein, ce n'est pas une fête qui est dans la Bible en tant que telle, mais c'est un moment durant l'année où, comme société, on se souvient de ce que sont les papas et on prend le temps de les remercier pour ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anti-chrétien, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, comme chrétiens, on a des papas et nous aussi, on est appelés à être reconnaissants envers eux. Et évidemment, on ne devrait pas juste être reconnaissants aujourd'hui. On ne devrait pas juste prendre soin de nos papas aujourd'hui. Mais aujourd'hui est un moment spécial pour s'en souvenir. Mais être père, c'est quelque chose qui peut être fatigant parfois. Moi, je ne suis pas papa, hein, donc évidemment, je ne sais pas c'est quoi être fatigué comme un papa, mais j'ai un papa et j'ai vu mon papa parfois être fatigué de son rôle à jouer. Peut-être que vous avez vu votre père aussi être fatigué ou le père de vos enfants ou peut-être que vous êtes vous-même un papa et que vous ressentez parfois la fatigue. Et j'aimerais ce matin pouvoir vous parler un peu de ça. On va regarder ensemble un encouragement qui est tiré du livre d'Ésaïe et on va aussi regarder l'histoire d'un père de la Bible que lui aussi a connu qu'est-ce que ça voulait dire être fatigué d'exercer le rôle de papa. Donc, avant d'aller plus loin, prenons un temps tout simplement pour déposer nos cœurs devant le Seigneur, pour disposer nos cœurs à entendre sa parole, même au milieu des distractions. Donc, Éternel mon Dieu, on te dit merci ce matin pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous encourages. Oui, c'est par ton esprit, Seigneur Dieu, qu'on est transformé. C'est par ton esprit qu'on est encouragé. Et ce matin, on t'invite, Seigneur, dans nos cœurs. Viens prendre toute la place. Viens nous parler, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas seulement participer à cette prédication, à ce temps en Église, comme avoir une distraction. On n'est pas là pour une distraction dans notre vie tous les jours, mais on est vraiment là pour être enseigné par ton esprit, pour être transformé. Donc, viens, Seigneur Dieu, et parle à nos cœurs, nous te prions, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Papa, père, un mot chargé d'émotions. Avant qu'on parle un peu plus du rôle de père, je veux prendre une minute quand même pour reconnaître que parfois la fête des pères, c'est quelque chose de beau et pour certains d'entre nous, la fête des pères, c'est quelque chose d'un peu triste, quelque chose qui ravive des émotions. Je ne sais pas quel genre de père vous avez eu. Peut-être vous avez eu un père qui était colérique, un père tornade. Peut-être vous avez eu un père absent. Peut-être que vous ne connaissez même pas votre père. Peut-être que vous avez un père qui était dévoué au travail ou qui était présent à la maison. Je ne sais pas quel genre de père vous avez eu ce matin. Mais je veux prendre le temps de vous inviter, si durant ce message, ou même juste à la mention du mot « père », ça suscite des émotions en vous, je vous invite à prendre un temps aujourd'hui pour présenter ces émotions-là au Seigneur, pour inviter le Seigneur à guérir vos cœurs. Le Seigneur connaît vos cœurs, et ultimement, le meilleur des papas, c'est lui. Alors, frères et sœurs, si ce matin, c'est quelque chose qui suscite des émotions difficiles, prenez un temps, rencontrez le Seigneur. Et si c'est quelque chose dont vous avez besoin de parler, eh bien, on est là. Marc, moi, on est heureux de parler avec vous, peut-être un frère ou une sœur dans l'Église. C'est un bon moment aussi pour nous rappeler que Dieu veut guérir nos cœurs. Et donc, ce matin, le message en tant que tel ne sera pas, le focus ne sera pas sur le genre de père qu'on a eu, mais plutôt sur le genre de père qu'on est. Et là, évidemment, il doit y en avoir parmi vous qui se disent « ben moi, je suis une femme, hein, je ne serai jamais père ». Peut-être qu'il y a des hommes ici qui disent « ben moi, je n'ai pas encore d'enfant ou je n'ai pas eu d'enfant ». Et c'est correct. Je vous invite à recevoir et à appliquer dans vos vies les enseignements peut-être ou les points qui, sur lesquels vous sentez que le Saint-Esprit vous parle. Ça nous arrive parfois durant les temps en Église d'adresser certaines personnes plus spécifiquement, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas quelque chose pour vous ce matin qui veut vous aider à appliquer à votre vie. Donc, je vous invite à ne pas fermer votre cœur en vous disant « Ah, ben là, ça, ce n'est pas pour moi parce que je ne suis pas papa. » Plutôt, ouvrez vos cœurs et laissez le Seigneur réorganiser cet encouragement-là pour vous à travers son Saint-Esprit. Et donc, alors que nous débutons un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de regarder un texte de l'Écriture, un texte qui ne s'adresse pas spécifiquement au papa, mais qui parle d'un serviteur, de quelqu'un qui cherchait à servir le Seigneur. Et parfois, comme père, on devrait, comme père chrétien, chercher à servir le Seigneur à travers la manière dont on exerce notre rôle de père. Et donc, prenons le temps de regarder qu'est-ce qui arrive parfois à un serviteur de Dieu quand il exerce un ministère spécifique, que ce soit celui de père ou autre. Et c'est Isaïe qui nous parle. Il nous dit ici, par rapport au Seigneur, il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, par toi je montrerai ma splendeur. » Quant à moi, je disais, « C'est pour rien que je me suis fatiguée, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dans le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur. Pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, appelés à servir le Seigneur. Appelé à servir le Seigneur dans un rôle spécifique ou dans plusieurs rôles dans nos vies. Et le rôle d'être père, c'est l'un des rôles que Dieu confie à certains d'entre nous et à travers lequel on sert le Seigneur. Cependant, on pourrait dire que parfois, être père, c'est fatigant. Parfois, on a l'impression qu'on s'épuise pour rien. Les enfants sont désobéissants, ils sont rebelles, ils sont difficiles, ils continuent de demander. Et on a l'impression que ce qu'on fait sert à rien. Ou que peut-être la récompense va venir, mais on n'est pas trop sûr quand. Parfois, il y a des longues périodes qui sont fatigantes dans notre rôle de père. Mais comme tout serviteur du Seigneur, Isaïe nous encourage à nous souvenir que Dieu veut nous amener à fixer nos yeux sur une récompense éternelle, comme dans tous les services qu'on offre au Seigneur. Donc, non pas seulement sur le temporel, mais vraiment sur l'éternel, ce qui vient à long terme, notre récompense devant Dieu. Et vous, est-ce que vous êtes parfois fatigué? Ou peut-être souvent? Il y a différents types de pères. Vous en voyez certains ici, bons ou moins bons. Différents types de pères, différents types de tentations aussi et différentes manières de bénir ses enfants. Être père, ce n'est pas un rôle facile. Parfois, c'est franchement fatigant. Peut-être qu'il faut que vous discipliniez les enfants. Dans certaines familles, le père doit aussi aider à la préparation des repas et au ménage. Parfois, le père doit travailler pour deux, avoir à ramasser un salaire pour deux. Parfois, il y a peu de temps avec les enfants. Je pense parfois à l'histoire d'un papa qui me partageait cette anxiété-là que ses enfants n'auraient pas assez. Et si je perds mon travail? Et s'il arrive quelque chose? Il y a des pères qui sont anxieux, il y a des pères qui sont dans toutes sortes d'états émotionnels. Et il y a des gens aussi dans la Bible qui étaient fatigués. Et donc, parfois, on s'épuise en prenant soin de notre famille. On est un petit peu comme ce monsieur-là là, qui se dit « Oh là là, comment je vais y arriver? Comment que je vais arriver à tout jongler? » La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul et j'aurais pu prendre plusieurs exemples dans la Bible pour nous présenter des pères qui étaient fatigués. J'en ai choisi un. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes familiers avec Jacob, avec l'histoire de Jacob. Donc, si vous êtes un peu moins familiers, l'histoire de Jacob, ça se passe dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, et on peut trouver son histoire à lui et celle de ses enfants du chapitre 34 au chapitre 50. Donc, vous savez, j'aime bien lire la Bible en continu. Ce matin, on ne va pas lire autant de chapitres en continu. Parce que si on lit tous ces chapitres-là, ben, je n'aurai pas le temps de faire un message sur ça. Donc, laissez-moi vous résumer brièvement à quoi ça ressemblait pour Jacob d'être un père. Donc, premièrement, Jacob a eu 12 fils et plusieurs filles. Et il a vécu plusieurs difficultés dans son rôle de père. Je vous résume rapidement. Son fils Juda, hein, il décide qu'il va avec une prostituée, ça se trouve que c'est sa belle-fille, donc la fille de son fils décédé qui s'était déguisée, parce qu'il avait refusé, en fait, de pourvoir à ses besoins. Donc, dans une société où c'était la responsabilité, ça aurait été sa responsabilité de s'assurer hein, que ses besoins soient pourvus en tant que veuve, il décide de ne pas le faire et il se passe cette situation-là. Son autre fils, Ruben, décide qu'il couche avec sa femme. Donc, pas la femme de Ruben, mais la femme de Jacob. Donc, il couche avec sa belle-mère, finalement, commettant à la fois inceste et adultère. Ouais, pas facile d'être le père dans cette situation-là, n'est-ce pas? Sa fille, Dina, sera enlevée et violée. Donc, encore là, comment on prend soin d'un enfant qui a vécu ce genre de choses-là? Pas facile d'être père. Jacob a ses fils Siméon et Lévi qui décident de mentir, tromper et se venger du viol de leur sœur en assassinant tous les hommes d'une ville. J'ai aussi des meurtriers comme enfants. J'ai aussi des gens qui ne savent pas pardonner. Parmi ses enfants aussi, la Bible nous dit que ses filles vont décider de piller cette ville-là, donc de voler des choses et de faire des femmes et des enfants de ces hommes-là qui ont tué des esclaves. OK. Wow. Jacob se ramasse avec des esclaves tout autour de lui, là, des gens qui sont en captivité. Et Jacob, la Bible nous dira, vit avec la peur des représailles, parce que là, si tu as tué plein de monde comme ça, eux autres, ils ont des familles ailleurs, probablement, ils ont des amis. Il y a d'autres gens autour qui vont peut-être eux autres aussi vouloir se venger. Pas facile d'être papa dans ce contexte-là. Jacob doit aussi gérer l'agressivité, la jalousie et la rivalité hein, de ses autres fils entre eux et Joseph. Donc, non seulement ses fils lui donnent des problèmes avec les gens à l'extérieur, mais ils ont des problèmes entre eux, là. Jacob est aussi le père de Joseph, hein, qui est toujours en train de rapporter ce que ses frères font pas de correct et qui fait des drôles de rêves, hein, des rêves prophétiques peut-être, mais Jacob, il ne sait pas tout de suite là, que ces rêves-là ils sont prophétiques. Il sait juste qu'il y a un fils qui fait des rêves bizarres puis que ça crée des conflits. Jacob est le père de fils qui vont comploter pour tuer Joseph et qui vont le vendre pour ensuite faire semblant hein, qu'il a été tué par une bête sauvage. Donc, Jacob ne le sait pas sur le coup, mais plus tard, il en viendra à connaître cette situation-là. Jacob est aussi le père qui a peur de laisser partir son fils Benjamin en Égypte, mais qui est obligé de le faire pour avoir quelque chose à manger. Donc, il vit avec la peur de perdre un enfant à nouveau. Jacob n'est pas certain qu'il va revoir son fils ou même tous ses fils. Donc, Jacob, c'est aussi le père qui a peur de perdre tous ses enfants. Finalement, Jacob est choqué d'apprendre que Joseph est en vie, mais au début, il ne croit même pas. Vous pensez que c'est difficile d'être père dans votre contexte? Eh bien, pour lui aussi, c'était difficile. Mais peut-être que vous n'êtes pas convaincu encore. Écoutons Jacob parler de ses propres expériences dans ses propres mots. Il dira, « Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez ou vous m'affligez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens envers moi, en les amenant à me détester. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. » Il ne se sentait pas tellement optimiste, Jacob, suite à ce que ses fils avaient fait. Il avait l'impression que ses enfants avaient atteint à sa réputation et qu'il mettait en danger lui et toute sa famille. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont déjà fait ça. J'espère que non. Ah, c'est pas toujours facile d'être père. Jacob dira aussi plus loin, hein? Jacob déchira ses vêtements, nous dit la Bible. Il mit un sac sur sa taille qui était un signe de deuil et il mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil ou la lamentation que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Dans son rôle de père, Jacob était inconsolable. Il s'attendait à porter le deuil toute sa vie. Parfois, être père, hein, ça nous amène à vivre certains deuils. Peut-être pas le deuil d'un enfant, parfois c'est le cas, mais parfois on vit un deuil de l'avenir peut-être d'un enfant, hein, qu'on se dit, mais mon enfant, il n'y arrivera jamais à accomplir certaines choses que je pensais que peut-être il aurait accompli quand j'ai tenu ce petit bébé-là dans mes bras. Je voyais un futur lumineux pour lui, puis finalement, ben, son futur n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, ce pour quoi j'avais prié. Jacob connaissait le deuil. Jacob dira aussi dans sa vie que le Dieu puissant éveille la compassion de cet homme envers vous afin qu'il laisse revenir votre autre frère Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privée d'enfant, donc être rendue sans enfant, que j'en sois privée, que je sois rendue stérile. Donc, Jacob, dans sa détresse, oui, il se confiait à Dieu et oui, il s'attendait à Dieu, mais il s'attendait aussi au pire par moment. Et c'était là un moment dans sa vie, dans son rôle de père, où c'était difficile pour lui de croire, d'avoir espoir. Peut-être aussi comme papa, vous avez vécu ça, ou peut-être votre père vit ce genre de choses-là par rapport à l'un de vos frères et sœurs, je ne sais pas. Être père, c'est pas toujours facile. Je sais pas quel genre d'enfant vous avez. Est-ce que vous avez eu des enfants qui étaient rebelles à Dieu et immatures, comme Judas et Ruben? Peut-être des enfants qui vous ont causé des problèmes, comme Siméon et Lévi. Peut-être aussi des enfants qui étaient différents des autres, comme Joseph. Peut-être vous avez eu des enfants qui étaient victimes de la méchanceté des autres, comme Dinah. Ou même des enfants qui étaient en conflit entre eux. C'est fatigant de devoir être père dans tous ces contextes-là. Et je ne sais pas comment on peut y arriver si on ne dépend pas de Dieu. Ce matin, je veux vous encourager à vous confier à Dieu. Peut-être que vous avez vécu des moments de désespoir comme Jacob et vous vous êtes dit, là vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que vos enfants sont jeunes et vous n'êtes pas encore rendus là, ils ne vous donnent pas trop de problèmes encore. Tout semble normal. Confiez-vous en Dieu quand même. On ne sait pas quel genre de choix nos enfants vont faire. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se déposer devant Dieu. Aucun père n'est parfait, mais aucun père n'est capable d'être un père sans être fixer ses yeux sur le Père céleste. Et donc, je vous invite, dans vos cœurs, à remettre vos enfants au Seigneur pour arriver vraiment à vous déposer, à trouver le repos en celui qui nous donne le repos, à trouver l'exemple en celui qui est l'exemple parfait de qu'est-ce que ça veut dire être un père. Mais il y a une bonne nouvelle pour Jacob, une bonne nouvelle pour nous aussi. La bonne nouvelle, c'est que l'histoire de Jacob ne se termine pas avec ces paroles-là de désespoir qu'on a entendues. Dieu est venu à son secours, et pas juste à son secours à lui, mais Dieu est venu au secours aussi de ses enfants, hein, parce qu'il aurait pu vivre des choses vraiment pires. Hein. Dinah aurait pu être forcée d'être mariée à son violeur, c'est d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ses fils auraient pu être attaqués hein, par le Cananéen, ils auraient pu être complètement détruits, et Dieu, de manière invisible et surnaturelle, est quand même intervenu dans ces situations-là, et beaucoup des autres situations, n'est-ce pas? Finalement, ses fils n'ont pas tué Joseph, et Joseph s'est retrouvé dans une belle position. Dieu était là. Dieu œuvrait en cachette, peut-être, dirons-nous, et on était capable de le voir seulement avec le recul. Donc, à la fin, de l'histoire, on est capable de voir l'œuvre de Dieu. Et parfois, c'est la même chose. Alors qu'on éduque nos enfants, alors qu'on prie pour eux, alors qu'on cherche à être des modèles pour eux, parfois, on ne le voit pas dans le moment. Tout ce qu'on voit, c'est les mauvaises décisions qu'ils prennent ou les difficultés qu'ils traversent. Mais par la grâce de Dieu, avec le recul, on verra la main du Seigneur qui a été à l'œuvre. Et donc, il se passe quelque chose. La paternité de Jacob est fructueuse malgré tout. Et la souffrance qu'il exprime suite à la perte de Joseph arrive à toucher le cœur de ses fils. Parce que finalement, à la fin de l'histoire, ils n'ont pas envie de perdre le petit Benjamin, le petit dernier que leur père aime. Plutôt que d'être jaloux de Benjamin, ils se souviennent de la souffrance qu'ils ont engendrée à cause de leur jalousie, à cause de leur rivalité à leur père, et ils ont un changement de cœur. Alors, ce ne sera peut-être pas en vain que Jacob ait exprimé sa souffrance, parce que quelque part, ça a changé le cœur de ses fils. Il y a autre chose aussi qui se passe. À la fin de sa vie, Jacob va bénir ses 12 fils qui deviennent eux-mêmes 12 tribus d'Israël. Et c'est une réalité qui va profiter à la fin de sa vie, mais dont il ne verra jamais l'accomplissement. Et donc, l'impact de sa paternité sur toute une nation sera au final pour tous les peuples de la terre, parce qu'on sait que Jésus vient à travers ça et le royaume de Dieu est étendu. Et donc, l'impact de sa paternité, de son rôle de père, de comment il a géré le fait d'être un père, est plus grand que ce qu'il peut comprendre. Et va au-delà de sa vie terrestre et donc affecte d'autres générations par la suite. Peut-être certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur comme père, ou vous avez l'impression un petit peu de on y va, on par essai-erreur, on découvre à l'aveuglette quel est le bon chemin. Peut-être que vous prenez le modèle sur un livre de psychologie ou sur un autre père que vous avez vu, que vous connaissez, peut-être même le vôtre. Mais souvenez-vous que qu'est-ce que vous faites en ce moment, quand vous demeurez attaché à Dieu, peut avoir un impact sur plusieurs générations à venir. Dieu n'est pas oublieux pour oublier votre fidélité et votre désir de le servir. Et donc, même si on peut être nous-mêmes fatigués, on peut vivre une paternité qui est fructueuse. Comme nous l'enseigne la vie de Jacob, on peut avoir confiance que Dieu va prendre soin de nos enfants malgré leur imperfection et les nôtres. Dieu veut élargir aussi notre perspective de ce qu'est être un père à l'idée d'un père spirituel pour les croyants et les incroyants et pour les générations à venir. Jacob, on en parlera comme étant le père de la nation d'Israël à travers ses fils. Donc, il y a eu un impact qui était plus grand. Quand on lisait le texte d'Ésaïe plus tôt, au début de la prédication, on voyait qu'est-ce que Dieu a dit à Ésaïe. Il dit, « C'est trop petit pour toi d'être un serviteur juste auprès de ta gang, là, Israël. Je vais faire de toi une bénédiction pour toutes les nations. » Dieu veut utiliser ton rôle de père, pas juste pour tes propres enfants. Il veut que ça soit une bénédiction pour d'autres aussi. Et je vais aller même plus loin que ça. Je vais vous dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas des pères biologiques, mais qui sont des hommes d'influence, des pères spirituels, des modèles de qu'est-ce que ça veut dire être un homme de valeur, un homme de Dieu, un homme qui marche près de Jésus. Et ce matin, alors qu'on célèbre la fête des pères, on célèbre aussi ces hommes-là qui ont un cœur de père, qui ont à cœur de prendre soin de gens plus jeunes qu'eux, peut-être même de gens plus vieux qu'eux, mais qui ont envie de donner, d'aider les autres à grandir dans leur foi. Et c'est quelque chose qui fait plaisir au cœur de Dieu. Donc, si vous n'avez pas eu d'enfant encore ou si vous n'en avez jamais eu, ça ne veut pas dire que vous êtes un échec et ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'être célébré. Au contraire. Vous savez, il y a des pères biologiques qui n'ont jamais été des pères de cœur, qui ont été des pères absents, qui ont été des pères désengagés, peut-être même des pères inconnus, et qui ne sont jamais entrés dans le mandat de Dieu. Et il y a des hommes qui n'ont jamais eu d'enfants et qui sont entrés dans le cœur de Dieu, le cœur de Père de Dieu, et qui sont devenus des hommes qui ont pris des rôles de Père spirituellement. Et donc, on veut vous célébrer ce matin. Comme le livre d'Ésaïe nous rappelle également, Dieu veut nous encourager à compter sur lui pour la récompense et non pas sur nos propres efforts. C'est l'économie de Dieu, en fait, qui est différente de la nôtre. Nous, on pense, si je travaille un certain nombre d'heures, je vais avoir une paye à telle heure, tel nombre d'heures égale tel nombre d'argent. Et on vit dans un monde qui souvent est mesuré comme ça. Dans l'économie divine, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on fait, on le fait en étant attaché à Dieu. Tout ce qu'on fait, on le fait en dépendant de Dieu. Et parfois, on ne voit pas la paye qui vient tout de suite, mais on est assuré que la paye, elle est là dans l'éternité. Amen. Et c'est le cœur de Dieu. Il nous rappelle, compte pas tes bénédictions aujourd'hui comme tu comptes ton salaire. Mon économie est différente, mon économie est meilleure. Moi, un père exemplaire, peut-être tu te poses la question, est-ce que je suis capable d'avoir un cœur de père exemplaire? Peut-être des fois on ne se sent pas à la hauteur, ou on ne sait pas comment être un père, ou on ne sait pas ça ressemble à quoi avoir un père. Eh bien, ce matin, je veux vous encourager aussi, avant qu'on relise la déclaration d'Ésaïe, j'aimerais vous encourager, peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir à un message antérieur. Donc, il y a 2 ans, j'avais donné un message justement à l'occasion de la fête des Pères sur comment trouver en Jésus un modèle de qu'est-ce que ça veut dire être un bon père. Jésus n'a pas eu d'enfant, mais il nous a montré qu'est-ce que ça veut être, qu'est-ce qu'est le cœur du Père. Donc, il a été un modèle pour nous. Si vous sentez que vous manquez de modèle, je vous invite à aller retourner sur le site web peut-être et regarder. Ou même, vous pouvez lire votre Bible, c'est bon aussi. Ça, c'est comme un petit résumé. Et il y a aussi une autre chose qui peut être intéressante, c'est de trouver des relations de mentorat. Donc, on est une église, on est là pour se soutenir les uns les autres, on est là pour s'accompagner les uns les autres. Peut-être vous êtes un père ou vous apprêtez à être père et vous ne savez pas trop ça veut dire quoi, être un père. Eh bien, ça peut être bien, si vous connaissez un autre père dans l'église, de prendre conseil auprès de lui et d'apprendre. Donc, dans ces relations-là fraternelles, Dieu nous enseigne aussi et il parle à nos cœurs. N'ayons pas peur de bâtir ces relations-là ensemble pour reconstruire notre compréhension, notre image de qu'est-ce que ça veut dire être un père. Et donc, ce matin, je veux terminer avec nous avec quelque chose d'un peu peut-être différent. Donc, je veux lire pour nous le texte d'Ésaïe avec lequel on a commencé. Et je vais le lire sous forme de déclaration prophétique. Donc, je vais le lire sous forme de déclaration. Vous allez voir dans le texte, il y a comme des braquettes comme ça. C'est les espaces où j'ai changé des mots juste pour adapter à ce que j'aimerais qu'on puisse recevoir ce matin. Donc, vous le savez, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle était écrite dans un certain contexte pour certaines personnes, mais elle est aussi utile pour nous aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu, elle n'est pas rigide en ce sens qu'elle n'était que pour les autres, mais elle est toujours vivante pour nous parler aujourd'hui. Et donc, voyons un peu comment être un serviteur, un papa serviteur, comment on pourrait appliquer ce texte-là dans nos vies. Alors, papa, Dieu te dit, tu es mon serviteur, par toi je montrerai ma splendeur. Même si tu te dis, c'est pour rien que je me suis fatiguée, c'est pour le vide et c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, ton droit, donc ta justice, est auprès de l'Éternel et ta récompense est auprès de ton Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, pour que tu sois son serviteur. pour que tu ramènes tes enfants vers lui, pour que tes enfants soient rassemblés près de lui. Tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel, et ton Dieu est ta force. Il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever tes enfants et pour les ramener. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Papa, Dieu t'appelle à rayonner dans ton rôle de père, non seulement pour tes enfants, mais pour tous ceux qu'il va placer sur ton chemin. Homme de Dieu qui a un cœur de père, qui aspire à voir grandir en lui l'amour de Dieu le Père, qui en prend son modèle comme étant son modèle de masculinité, de qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Dieu a plus pour toi que juste des enfants biologiques. Il veut t'utiliser pour être une bénédiction pour les nations. Prions alors que nous terminons pour que le Seigneur vraiment fortifie les hommes parmi nous afin qu'ils puissent refléter le cœur de Dieu le Père et assumer leurs responsabilités de manière à honorer Dieu. Seigneur, tu connais les hommes de cette Église. Tu connais, Seigneur, leur tracas, leur tristesse, leur découragement, leur colère. Toutes ces choses, Seigneur Dieu, qui apportent un poids sur leurs épaules. Tu connais parfois les grandes décisions qu'ils ont à prendre. Le sentiment parfois de ne pas savoir quoi faire. Tu connais leur cœur, comment certains sont découragés par moments, comme Jacob l'a été. Et Seigneur, tu es là pour fortifier, pour réconforter. Seigneur, nous prions pour les hommes de cette assemblée, qu'ils puissent marcher avec force alors qu'ils tirent de toi leur force, qu'ils puissent refléter ta douceur, ta fermeté, ton amour, ton cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ces hommes qui ont bravement accepté et même choisi d'assumer le rôle de père auprès de leurs enfants et auprès de gens qui ne sont même pas leurs enfants. Seigneur, donne-leur la force de voir et de comprendre que c'est toi qui amènes la récompense en ton temps. Jésus, nous te prions aussi pour ceux et celles parmi nous qui souffrent d'avoir vécu des mauvais traitements de la part d'un père, un abandon peut-être, une colère et toutes sortes d'autres choses. Éternel, tu es le Père par excellence et je prie que tu puisses pourvoir dans leur vie avec l'exemple d'autres hommes qui seront pour eux et pour elles comme des pères. Merci Jésus, toi le modèle parfait, toi qui nous révèles le Père. Oui, bénis-nous ce matin, nous prions. Amen.